Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. Le plan blanc activé dans les hôpitaux de France. L'épidémie de bronchiolite atteint des proportions préoccupantes, plus vues depuis 10 ans selon Santé publique France. Avec des services pédiatriques déjà en grande difficulté, la situation inquiète. Vos témoignages sont les bienvenus au 39-21. Nous serons dès 19h20 avec le professeur Jean-Hugues Dalle de l'hôpital Robert Debré à Paris. C'est aussi à la une de votre journal. Bonsoir Hélène Zelani.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. On parlera aussi de ce camouflet pour l'armée russe qui se retire de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Les défis de l'armée française pour les années à venir, Emmanuel Macron les a évoqués lors d'une visite à grand spectacle à Toulon avec élitreuillage en mode James Bond. Les 234 migrants à bord de l'Ocean Viking attendent toujours de savoir où ils pourront débarquer. Selon les informations d'Europe 1, Toulon se prépare à les accueillir le cas échéant.
Et nous en parlerons avec notre autre invité après 19h30, l'eurodéputé Les Républicains, François-Xavier Bellamy. Posez-lui vos questions, faites-nous part de vos avis au 39-21.
Dans ce journal également, les démocrates de Joe Biden qui résistent mieux que prévu lors des élections de mi-mandat, le top départ des 138 skippers de la route du Rhum et le suspense autour de la liste des joueurs qui s'envoleront pour le Mondial au Qatar. Didier Deschamps la dévoile, cette liste, à 20h20.
Et forcément, il y aura des déçus. La tendance météo, bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël et bonsoir à tous. Alors après la pluie, retour au calme demain avec des conditions anticycloniques propices à la grisaille brumeuse. Et oui, nous sommes en automne. Brumes qui auront parfois du mal à décoller. Météo complète en fin de journal.
A tout à l'heure Marlène. C'est une maladie aux symptômes spectaculaires. Elle touche un tiers des bébés de moins de 2 ans. La bronchiolite, elle est particulièrement virulente cette année.
Oui, au point que le plan blanc a été déclenché à l'hôpital, annonce ce soir du ministre de la Santé François Braun. C'est donc le déploiement des grands moyens face à une épidémie comme on n'en avait pas vu depuis plus de 10 ans, Yasmine Akatou.
Oui, près de 6900 enfants de moins de 2 ans sont passés aux urgences la semaine dernière. Un tiers de ces bébés, souvent des nourrissons de quelques mois, ont dû être hospitalisés après leur consultation. Aujourd'hui, ces hospitalisations pour bronchiolite représentent la moitié des hospitalisations après passage aux urgences. C'est plus que lors des dernières épidémies où les hospitalisations pour bronchiolite représentaient environ 40%. Alors même si toute la France est touchée, l'épidémie est plus marquée dans les régions de la moitié nord de la France. D'ailleurs, faute de place et de soignants, des enfants en réanimation pédiatrique ont dû être transférés d'Île-de-France vers d'autres régions, parfois à des centaines de kilomètres de chez eux. C'est donc la raison pour laquelle un plan blanc a été déclenché. Il permet aux hôpitaux d'annuler les vacances du personnel, de rappeler les soignants sur leurs jours de repos en fonction des besoins et de l'afflux des patients. Les consultations, les chirurgies considérées comme non urgentes sont annulées. Impossible de dire combien de temps sera maintenu ce plan blanc. L'année dernière, le pic de l'épidémie de bronchiolite avait été atteint fin novembre.
Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1.
Et pour témoigner, appelez-nous au 39-21. Nous serons après le journal d'Hélène Zelani avec le professeur Jean-Hugues Dalle. C'est une défaite de taille pour les Russes en Ukraine. Ils évacuent la ville de Kherson au sud du pays.
Oui, le ministre russe de la Défense ordonne en effet le retrait de ses soldats de tout le secteur de la rive droite du fleuve Dniepr. Écoutez Sergueï Choïgou.
Pour nous, la vie des militaires russes est toujours une priorité. Nous devons également tenir compte du danger pour les populations civiles. Veillez à ce que tous les civils qui préfèrent partir puissent le faire, puis commencer le retrait des troupes en prenant toutes les mesures pour assurer le repositionnement en toute sécurité du personnel, des véhicules et du matériel au-delà du Dniepr.
Voilà, c'est l'avis de nos soldats qui prime, explique le ministre russe de la Défense. On va tenter de décrypter cette décision russe avec vous, William Molinier. C'est un revers cinglant pour Vladimir Poutine.
Oui, cette décision de retrait est à la fois capitale et symbolique à plus d'un titre. Kherson, c'est la seule capitale régionale dont Moscou a pu revendiquer la conquête depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février. Avec les référendums d'annexion en septembre dernier, cette oblast est même désormais considérée par le Kremlin comme un territoire russe à part entière que Vladimir Poutine s'est engagé à défendre. Alors d'un point de vue militaire, la contre-offensive ukrainienne dans le sud du pays semble porter ses fruits, même si Kiev affirme ce soir ne voir aucun signe de retrait sur le terrain. Il faut dire que ça risque de prendre du temps. Les ponts pour traverser le fleuve Dniepr ont été endommagés et les Ukrainiens, grâce aux livraisons d'armes occidentales, ont réussi à causer des difficultés d'approvisionnement dans les lignes arrières russes. Ce retrait, même s'il s'avère inéluctable, est aussi malgré tout stratégique. Le repli sur la rive est va permettre aux Russes de resserrer leur défense en profondeur derrière le fleuve, sorte de frontière naturelle. Reste à savoir comment cette annonce va être perçue à Moscou. Plusieurs hauts responsables russes ont brandi ces dernières semaines impossible recours à l'arme nucléaire.
William Molinier.
Et c'est dans ce contexte de guerre en Ukraine qu'Emmanuel Macron était à Toulon aujourd'hui.
Au menu, les défis stratégiques de la défense française dans les années à venir. Jacques Serret, vous suiviez le chef de l'État qui a débarqué sur le pont du Dixmude, porte-hélicoptère amphibie dans la base navale de Toulon, et cela dans une mise en scène soignée.
Oui, avec une arrivée saluée par des coups de canon dans la base navale de Toulon.
Garde à la roue !
Emmanuel Macron à bord du Dixmude salue les troupes, puis debout derrière son pupitre devant deux hélicoptères entame son discours.
Bien que ce bâtiment soit entouré d'eau abritée, la rade majestueuse, un jour calme, ne nous méprenons pas. La période n'est pas autant calme, mais au gros temps.
L'occasion pour le chef de l'État de rappeler que les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne.
Nos forces nucléaires contribuent donc à la sécurité de la France et de l'Europe.
La question du nucléaire, mais aussi de la cyberdéfense, car Emmanuel Macron veut en faire une priorité.
Nous devrons aussi disposer, dans les 5 ans, d'une cyberdéfense de tout premier rang mondial.
Mais après les mots place à l'image, le locataire de l'Elysée enfile une combinaison de la marine, grimpe à bord d'un hélicoptère, vole au-dessus de la Méditerranée et descend accroché à un harnais sur le sous-marin d'attaque nucléaire Suffren. Mais contrairement à sa dernière expédition sous-marine il y a 5 ans, cette fois, aucun journaliste n'a pu monter avec lui. Secret défense.
Jacques Serret à Toulon pour Europe 1. Et après le sous-marin, Emmanuel Macron est allé rendre visite aux nageurs de combat du commando Hubert, non loin de là, à Saint-Mandrier.
Quelle destination pour l'Ocean Viking, ce navire humanitaire bloqué en mer Méditerranée?
Oui, c'est en effet le dernier des 4 bateaux de sauvetage de migrants qui attend encore de savoir quel port pourra l'accueillir avec ses 234 personnes à bord. L'Italie a dit non, Wilfried de Villers. En revanche, selon nos informations, la France se prépare à accueillir l'Ocean Viking.
Oui, une partie des effectifs de la zone sud de la police aux frontières est en train de converger vers Toulon, le port de Toulon, où pourrait donc accoster l'Ocean Viking vendredi à l'aube et au plus tard ce week-end. Toujours selon nos informations, le dossier est piloté directement depuis l'Elysée. Un scénario envisagé si, et cela semble de plus en plus probable, si la pression que Paris exerce sur Rome ne donne pas de résultat. La France qui exhorte le gouvernement de Giorgia Meloni à respecter le droit maritime. Celui-ci prévoit que ce soit le pays le plus proche qui accueille l'Ocean Viking. Il est actuellement à l'est de la Sardaigne. Reste que Rome fait depuis plusieurs jours la sourde oreille aux multiples demandes d'accueil de l'ONG SOS Méditerranée en charge du navire humanitaire. 43 demandes au total laissées lettres mortes. L'Ocean Viking continue sa route vers le nord, vers la France. Un choix dont se justifie le président de SOS Méditerranée, François Thomas.
Nous n'avons pas d'autre solution. Pour le moment, sans réponse de l'Italie de nous diriger vers la France, nous espérons que la France ouvrira un port pour trouver une solution humanitaire et légale également, puisque c'est quand même le droit de la mer.
À bord du navire, la situation est critique. Selon François Thomas, de nombreux migrants souffrent de problèmes respiratoires à cause du froid, de l'humidité. À cela s'ajoute l'épuisement et une intense détresse psychologique après 19 jours bloqués en mer.
Et c'est justement à cause de cette situation critique à bord que ce soir, la Commission européenne appelle au débarquement immédiat de tous les migrants au port le plus proche. En tout cas, en France, cette affaire prend un tour politique. Le LR Éric Ciotti et le président du RN Jordan Bardella sont sur la même longueur d'onde, opposés à un accueil du navire en France. LFI et PS insistent sur l'urgence humanitaire.
Et tout à l'heure dans Europe Soir, nous entendrons la réaction de l'eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy. Il est notre invité. Vos questions, vos réactions au 39-21.
Si vous êtes un usager des transports parisiens, il va sérieusement falloir penser au télétravail demain. L'ensemble des syndicats de la RATP appellent à la grève pour défendre les salaires. Et le mouvement s'annonce très suivi. Quasiment aucun métro, sauf sur les lignes automatisées et encore avec des stations fermées. Perturbations importantes aussi sur les RER A et B, ainsi que dans les bus avec 20 lignes arrêtées. En revanche, peu de répercussions à la SNCF. Les TGV rouleront normalement. Légères perturbations sur les intercités et 9 TER sur 10 en moyenne.
Restez avec nous sur Europe 1 dans quelques instants, direction les États-Unis où la vague rouge républicaine n'a pas eu lieu. A tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zelani. Lendemain d'élection de mi-mandat aux États-Unis, pas encore de résultat définitif. Et pas de vague rouge en vue.
Non, pas de vague républicaine, même si le parti semble en bonne voie de l'emporter d'une courte tête à la Chambre des représentants. Côté Sénat, c'est encore trop tôt pour y voir clair. Alexis Guilleux, vous êtes à New York. Pas mal de surprises dans ce scrutin.
Oui, avec d'abord la forte mobilisation de l'électorat démocrate, des jeunes, des femmes notamment, sorties aux urnes pour défendre la démocratie, pour défendre l'avortement, y compris dans les États conservateurs. Deux messages qui ont été martelés ces dernières semaines par Joe Biden. Le président donc bien parti pour éviter la traditionnelle raclée que subit le pouvoir en place lors des midterms. La surprise, c'est donc la petite victoire républicaine qui se dessine. L'opposition devrait s'emparer de la Chambre des représentants seulement pour une dizaine de sièges. Visiblement, dans de nombreux États comme le New Hampshire, le Michigan, la Pennsylvanie, l'alternative ultra-radicale proposée par les Républicains n'a pas séduit les électeurs. Et d'après les échos, Donald Trump est en colère aujourd'hui. L'ancien président, très engagé dans cette campagne, espérait une large victoire et un tremplin pour 2024. C'est tout l'inverse qui s'est passé. La presse conservatrice parle plutôt du triomphe de son rival, Ron DeSantis, largement réélu gouverneur de Floride. DeSantis, le futur, titre par exemple le New York Post. Mais il faut rester très prudent. C'est extrêmement serré pour le Sénat au Nevada, en Arizona et en Géorgie. Les Républicains peuvent donc encore espérer prendre le contrôle de la Chambre haute. Et s'ils y parviennent, cela changerait le récit de ces élections de mi-mandat.
Alexis Guilleux en direct de New York pour Europe 1. Et Joe Biden va s'exprimer ce soir à 22h, heure de Paris. Les atteintes à la laïcité sont de plus en plus nombreuses dans les établissements scolaires. Les chiffres sont attendus dans la soirée, mais le gouvernement décide de hausser le ton et envoie une circulaire aux recteurs d'académie, circulaire qu'Europe 1 a pu se procurer. Elle demande notamment des sanctions systématiques après une phase de dialogue. Les détails sont sur europe1.fr.
En route pour la Guadeloupe, les 138 skippers de la route du Rome se sont élancés de Saint-Malo cet après-midi.
Oui, ils sont partis à l'assaut de l'Atlantique avec en ligne de mire le record de 6 jours. Martin Lange, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la cité corsaire. Bonsoir.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Vous avez pu assister au départ au plus près des bateaux.
Oui Hélène, j'étais même en plein milieu. Je suis parti ce matin aux aurores à bord de Charles, un monocoque de 18 mètres et c'est surtout le bateau de Jérémy Bayou. Jérémy Bayou, qui vous allez l'entendre, est un petit peu tendu avant un départ.
J'ai bu un café ce matin, peut-être que tout à l'heure j'arriverai à manger quelque chose, une pâte de fruits ou quoi, mais voilà, le ventre est un peu serré. Là.
Une fois à bord, Jérémy fait un dernier point météo avec l'équipe. On prend la mer en direction la ligne de départ. Il est 14h15 précise, on la VHF crypte.
5, 4, 3, 2, 1,
c'est parti, les 138 bateaux sont lancé, toute voile dehors, direction le Cap Fréhel, première étape de cette route du Rhum. Actuellement, la flotte est au milieu de la Manche. C'est Charles Collier sur Edmond Rothschild qui mène le peloton, mais attention, il devrait écoper de 4 nullités pour avoir coupé la ligne trop tôt. A noter aussi le premier abandon de cette route du Rhum pour l'anglais Sam Goodchild.
Martin Lange, en direct de Saint-Malo pour Europe 1, est désolé de ces difficultés de liaison. Je précise que vous n'étiez pas sur un bateau, mais sur la terre ferme.
Encore un peu plus d'une heure de patience avant de connaître la liste de Didier Deschamps.
Oui, un petit peu après 20h, le sélectionneur mettra fin au suspense. Il dévoilera sa liste pour le Mondial au Qatar et soirée spéciale, évidemment, sur Europe 1. Cédric Chasseur, beaucoup d'incertitudes autour du groupe qui va s'envoler mercredi pour le Qatar.
Oui, elle va commencer par le nombre de joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. 23, 24, 25, 26. Didier Deschamps a toujours dit qu'il n'aimait pas les listes élargies, mais il pourrait renier certains de ses principes ce soir et prendre plus de joueurs que prévu. Comme au poste de gardien, où la tendance est à 4 joueurs sélectionnés. Une seule certitude, Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, évidemment, mais Mike Maignan, par exemple, pourrait aussi faire partie de cette liste. En défense, le Marseillais Jonathan Clauss devrait faire les frais d'un possible remaniement tactique avec le retour à une défense à 4. Défense où Raphaël Varane devrait figurer, malgré sa blessure à une cuisse il y a quelques semaines. Là encore, Didier Deschamps devrait renier sur ses principes, lui qui ne prend habituellement que des joueurs prêts à débuter le premier match de la compétition. Cette fois, au vu de la situation, il fera abstraction Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, pour ne citer que, sont dans le même cas. Au milieu de terrain, après les forfaits de Paul Pogba et de N'Golo Kanté, il y a des places libres à récupérer. Sans surprise, elles devraient revenir à Tchouaméni, Rabiot et Fofana. Un joueur semble aussi en ballotage favorable, selon nos informations, le Marseillais Jordan Veretout. Enfin, en attaque, il y a assez peu de doutes sur la présence de Mbappé ou de Benzema. Auteur d'un très bon début de saison, Olivier Giroud devrait être récompensé. Lui qui espère toujours battre le record de buts en équipe de France. Reste à savoir qui va les accompagner. Kolo Muani, Nkunku, Coman, Dembélé, Thuram. La France est plutôt bien lotie dans ce secteur et l'annonce de Didier Deschamps fera forcément des déçus, même si tout ne sera pas perdu ce soir, puisque Didier Deschamps a jusqu'à lundi pour annoncer sa liste officielle à la FIFA. Et un joueur forfait peut être remplacé jusqu'à la veille du premier match. Ce sera France-Australie le 22 novembre.
Cédric Chasseur, on vous retrouve avec vos compères d'Europe 1 Sport tout à l'heure pour une émission spéciale liste Didier Deschamps de 20h à 23h. Beaucoup moins de suspense du côté des marchés financiers. Didier Hameau de boursier.com, une toute petite baisse à Paris.
Oui, c'était très calme. La Bourse de Paris a perdu 0,17%, 6 430 points. Pas beaucoup d'animation en bourse, une séance de pause après 13% de regagné quand même depuis le début du mois d'octobre sur le CAC 40. Le prochain grand rendez-vous chiffré est fixé à demain, jeudi, avec l'indice d'inflation américain pour le mois d'octobre, alors que la hausse des prix tourne autour des 8% outre-Atlantique. En attendant, la Bourse de Francfort perd 0,1% ce soir, Bruxelles moins 0,6%, Londres moins 0,1% et le CAC 40 moins 0,17%, 6 430 points.
Merci Didier Hameau.
Et merci à vous chère Hélène Zélani. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Il sera 20h sur Europe 1. La météo. On retrouve Marlène Duret, il y a beaucoup plus en Vallée du Rhône, il y a beaucoup plus en Vallée du Rhône aujourd'hui que dans des départements où les sols sont particulièrement secs.
Oui Raphaël, l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse et la Drôme font partie des départements où la sécheresse a atteint des records cette année, on le sait. Et on a relevé jusqu'à 110 mm de précipitations quand même, donc c'était bien.
Demain, le temps redevient sec partout quasiment.
Hein. Oui, c'est ça, c'est le retour de l'anticyclone qui ne sera pas forcément synonyme de beau temps. En automne, vous le savez, l'humidité reste bloquée dans les basses couches de l'atmosphère et ça génère des phénomènes de brume, de grisaille qui parfois ne se lèvent pas de la journée. Alors le soleil va dominer plus ou moins tardivement. L'après-midi, disons que le ciel sera bien dégagé sur une bonne moitié sud du pays jusqu'au niveau de l'estuaire de la Gironde, de la Sologne, de la Bourgogne-Franche-Comté. Bon, il y aura des petites poches de grisaille très locales qui devraient persister notamment vers le Val de Saône. Et en revanche, en allant vers plus au nord, hein, sur le reste du pays, l'humidité qui va se dissiper assez lentement et les nuages peuvent rester compacts par endroits. Donc c'est aléatoire.
Et si le ciel est bien dégagé, ça veut dire que les températures vont baisser le matin.
Et oui, les minimales seront comprises entre 4 et 8 degrés en général, un petit peu plus près du littoral, 8, 10 degrés et même jusqu'à 11 à 14 près de la Méditerranée. L'après-midi, si la grisaille se maintient, les températures ne peuvent pas monter comme prévu, c'est bien le problème. Hein. Mais bon, en général, prévoyez 13 à 15 degrés sur la moitié nord, 15 à 17 au sud et ça peut monter jusqu'à 20-21 près de la Grande Bleue et même jusqu'à 23 en Corse.
C'est bien noté.
Donc on va sentir que ça baisse.
C'est bien noté, merci Marlène Duret. Rendez-vous à 23h pour un nouveau point météo sur Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillons le professeur Jean-Hugues Dalle. Il est chef du service d'hématologie et d'immunologie pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à Paris. Nous allons parler de ce plan blanc activé à l'échelle nationale dans tous les hôpitaux de France face à l'épidémie de bronchiolite particulièrement virulente cette année.
19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.
Europe Soir.
Raphaël Delvolvé.
Le terme nous rappelle la sombre période du Covid. Le plan blanc est de nouveau activé dans les hôpitaux de France, mais cette fois face à la bronchiolite. François Braun, le ministre de la Santé, l'active, demande la réorganisation des services pour absorber un niveau inédit d'hospitalisation du jamais vu en 10 ans. Nous sommes en ligne avec le professeur Jean-Hugues Dalle, chef du service d'hématologie et immunologie pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à Paris. Bonsoir professeur.
Bonsoir monsieur Devolvé.
Quelle est la situation dans votre hôpital ?
Elle est extrêmement tendue, comme nous le dénonçons depuis plusieurs semaines. Le déclenchement du plan blanc d'aujourd'hui est tout sauf une surprise, et surtout il ne répond en rien aux difficultés. Quand on prend le préambule de ce que c'est que ce plan de déclenchement des secours dans les documents officiels, il est dit, je cite, « C'est la réponse sanitaire aux situations exceptionnelles qui doit permettre d'optimiser la prise en charge des patients lors d'événements graves ou inhabituels. S'agissant d'une épidémie virale, saisonnière, annuel que nous connaissons tous depuis plus de 20 ans, je ne comprends pas bien en quoi cet événement est inhabituel. »
C'est-à-dire que, selon vous, l'épidémie actuelle de bronchiolite n'est pas si virulente, pas plus virulente que les autres années ?
Pourtant, les chiffres de Santé publique France l'indiquent. Hein. 50% des hospitalisations des enfants de moins de 2 ans font suite à un passage aux urgences pour bronchiolite. C'était 40% l'an dernier.
Alors, bien sûr, l'épidémie est plus virulente cette année qu'elle ne l'a été les 2 ou 3 dernières années précédentes, et ce, en lien avec les mesures barrières que nous avions collectivement mises en place face au Covid. Mais cette épidémie, elle est annoncée par l'hémisphère sud. Donc, durant l'hiver austral, donc l'été pour nous dans l'hémisphère nord, nos collègues de l'hémisphère sud nous ont informés sur la gravité de l'épidémie à laquelle nous allons devoir faire face. Les pouvoirs publics savaient que cette épidémie allait être particulièrement virulente cette année.
Alors, le ministre de la Santé, pas plus tard que la semaine dernière, a gonflé l'enveloppe d'urgence à 400 millions d'euros. Ça sera versé, alors selon différentes formules, hein, des heures de nuit payées double, des heures supplémentaires payées double également jusqu'au mois de mars. Ça ne suffira pas non plus à faire face ?
Mais ça ne suffira pas parce que, de toute manière, la situation plan blanc officialisée ce jour, elle existe depuis plusieurs semaines. Les directions des soins infirmiers, les directions hospitalières essayent de gérer le personnel et essayent de gérer le flux aux urgences au mieux de ses capacités depuis des semaines. La semaine dernière, les directions des soins infirmiers appelaient le personnel en repos en disant « Voudriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur vos repos ?» Et le personnel qui est résilient revenait. Et ce soir, on va leur dire « vous devez revenir ou vous ne prenez pas vos repos ». C'est la meilleure façon d'achever ce qu'il reste encore de bonne volonté parmi les équipes soignantes.
Alors, si vous avez des témoignages à nous faire part, hein, chers auditeurs, appelez-nous au 3921, posez vos questions au professeur Jean-Hugues Dalle. Alors, il y a l'aspect politique, hein, la crise des hôpitaux, et puis il y a aussi l'aspect purement sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible, s'il vous plaît, professeur, pourquoi cette bronchiolite est plus virulente, peut-être plus dangereuse, allez-vous nous le dire ?
Alors, comme vous l'avez dit en préambule, dans la présentation, moi je dirige un service d'hématologie et d'immunologie, donc je ne suis pas au contact direct des enfants ayant la bronchiolite. Au contraire, on essaie qu'ils ne viennent pas dans un service comme le nôtre, parce que ce virus serait encore plus dangereux pour des enfants immunosupprimés comme ceux qu'on traite dans le service. Mais ça, c'est le profil d'un virus une année donnée. Chez des enfants qui ont été au contact d'adultes, eux-mêmes moins en contact du VRS ces 2 ou 3 dernières années, du fait des mesures barrières liées à l'épidémie du Covid. Donc, les adultes ont moins développé d'anticorps face au VRS parce qu'ils l'ont moins rencontré. Les dames enceintes qui ont donné naissance à des enfants ces derniers mois n'ont pas transmis d'anticorps qu'elles n'avaient pas sécrétés face à ce virus lors de l'épidémie précédente l'an dernier. Donc on a des enfants moins bien armés vis-à-vis de ce virus cette année. Et puis le relâchement des mesures barrières dans la population générale fait que collectivement nous sommes moins attentifs. Mais encore une fois, ce VRS n'est qu'une des facettes de la crise hospitalière. Il révèle simplement un hôpital qui va extrêmement mal.
Et en particulier dans les services pédiatriques, hein, en particulier.
En particulier dans les services pédiatriques, alors, mais pas que, malheureusement.
Professeur, on va marquer une petite pause. Restez avec nous. On continue de parler donc de cette épidémie de bronchiolite inquiétante, puisqu'elle pousse le ministère de la Santé à activer le plan blanc ce soir. Restez avec nous. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, le plan blanc est activé dans tous les hôpitaux de France par le ministre de la Santé François Braun face à une épidémie de bronchiolite particulièrement virulente, jamais vue en 10 ans. Nous en parlons avec le professeur Jean-Hugues Dalle de l'hôpital Robert Debré de Paris. Professeur, le plan blanc n'est activé que aujourd'hui. Si ce soir des parents en détresse viennent à l'hôpital Robert Debré, est-ce que leur enfant est pris en charge? Est-ce qu'on doit le transférer dans un autre hôpital, parfois loin de la région parisienne? Comment ça se passe?
Leur prise en charge, oui, bien sûr, les équipes sont là et tout enfant nécessitant des soins continuera évidemment à être soigné en situation aiguë. Ce n'est pas le cas malheureusement des enfants en situation chronique qui n'ont plus leur place à l'hôpital public à l'heure actuelle. Bien sûr, une famille qui arrive avec un enfant en détresse respiratoire aux urgences, à Robert-Debré ou ailleurs, ce soir, cette nuit, demain, elle va être prise en charge, cette famille. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, eh bien, ça change à chaque minute. Le chef de service de réanimation pédiatrique, le professeur Stéphane Daugé à Robert-Debré, nous fait un point, matin et soir, par email, de la situation de son service, la situation du nombre de lits, vacants ou pas. Et ce matin, il y avait 20 patients dans 20 lits, avec très peu de sortants, donc très peu de capacité à accueillir de nouveaux patients ce soir. Donc je ne connais pas la situation ce soir à 19h30, au moment où on se parle, mais il est probable que s'il y a besoin de plusieurs lits à Robert-Debré ce soir, à Paris, dans le 19e arrondissement, dans un hôpital de la PHP, il faille transférer cet enfant. Et comme l'ensemble des services hospitaliers sont en tension, il est possible que cet enfant ait à être transféré loin.
Professeur Dalle, le plan blanc va rien changer si je vous suis.
Le plan blanc va permettre de coller une rustine sur une énorme plaie sur l'hôpital public. Donc ça va peut-être permettre de passer un tout petit peu mieux les quelques heures ou les quelques jours qui viennent, mais il faut bien comprendre que prendre en charge un peu plus d'enfants en aigu parce qu'ils sont plus nombreux, parce qu'ils ont besoin de cette prise en charge en aigu, le plan blanc va nous obliger à déprogrammer des enfants dits chroniques qui étaient programmés pour des soins à l'hôpital. Dans un service comme celui que je dirige, cela veut dire que nous allons annuler une fois de plus une ou deux ou trois greffes de cellules souches hématopoïétiques, des greffes de moelle, pour des enfants qui étaient programmés, parce qu'on va nous demander de délocaliser des infirmières d'hématologie vers les urgences ou la réanimation où on a besoin d'elles et où il manque du personnel, mais que ces infirmières ne seront pas au poste qu'elles devraient occuper. Et donc, il ne s'agit pas d'opposer des patients à d'autres patients. Ce qui est dramatique, c'est que l'hôpital public, à l'heure actuelle, ne puisse pas prendre en charge des enfants ayant besoin de soins aigus ou de soins plus chroniques.
Évidemment, on comprend vos interrogations. Voilà, il faut bien préciser, la bronchiolite touche les jeunes enfants, les très très jeunes enfants, hein, moins de 2 ans. Il y en a un peu plus de 2000 hein, entre le 31 octobre et le 6 novembre qui ont été hospitalisés. Les symptômes sont assez spectaculaires. Ça inquiète beaucoup de parents. Est-ce qu'on pourrait les rassurer, professeur Jean-Hugues Dalle, en leur expliquant que la bronchiolite est une maladie bénigne?
Alors, c'est une maladie bénigne dans la plupart des cas, mais il peut y avoir d'abord des formes extrêmement sévères, nécessitant de la réanimation et parfois une assistance ventilatoire. Mais même lorsque c'est une maladie bénigne, au sens que 48 ou 72 heures plus tard, l'enfant va mieux, il y a quelques heures critiques durant lesquelles l'enfant peut être en grande souffrance respiratoire et avoir besoin, alors pas nécessairement d'une machine, mais au moins d'oxygène sous le nez. Et de l'oxygène, il n'y en a pas à la maison. Donc, quand des parents qui connaissent bien leur enfant sentent que leur bébé va moins bien, il n'est pas question qu'eux s'interrogent sur est-ce qu'on exagère en venant à l'hôpital. Évidemment qu'un enfant qui ne vous semble pas bien à la maison, il doit être vu par un médecin dans les minutes ou dans les heures qui suivent. Il doit être évalué, cet enfant. Il n'est pas question de décourager les familles en leur disant ne venez pas à l'hôpital et regardez-le et attendez qu'il soit vert ou gris pour venir à l'hôpital. C'est insupportable.
Alors, j'aimerais qu'on évoque, avant de vous laisser, professeur, la recherche. Elle a fait des progrès la semaine dernière, vendredi. L'Union européenne a approuvé un traitement préventif en mesure d'empêcher les formes graves de bronchiolite chez l'ensemble des bébés. Ce sont des anticorps de synthèse, hein, ils ne seront pas disponibles avant la saison 2023. Et puis l'américain Pfizer, hein, que tout le monde connaît maintenant, vient d'annoncer des résultats positifs pour un vaccin anti-VRS. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que si des traitements, des vaccins sont développés suffisamment efficaces, ça peut régler une partie du problème?
Alors, comme vous venez de le dire, ça ne réglera pas le problème de l'épidémie 2022, mais bien sûr que ce sont des progrès, bien sûr que ce sera très bien. Encore faut-il que nous parvenions à convaincre au niveau de la société que les vaccins sont des progrès thérapeutiques, qu'un vaccin, ça sauve des vies. Et il y a malheureusement encore une partie de la population qui en doute. Ça va aider effectivement à combattre les formes sévères de ces atteintes à virus respiratoire syncytial, hein, le fameux VRS responsable de la bronchiolite. Mais encore une fois, ce n'est pas à coup de vaccin que nous allons régler le problème de l'hôpital public à l'heure actuelle. Mais ce sont des progrès indéniables.
Merci beaucoup, professeur Jean-Hugues Dahl. Je rappelle que vous êtes chef du service d'hématologie et immunologie pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à Paris. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 pour évoquer cette information ce soir, le plan blanc activé à l'échelle nationale dans tous les hôpitaux face à l'épidémie de bronchiolite.
Europe Soir, 19h, 20h. Raphaël Delvolvé.
Nous en avons parlé pendant le journal d'Hélène Zélani. Il est maintenant probable, c'est une information Europe 1, que l'Ocean Viking d'SOS Méditerranée débarque en France avec plus de 200 migrants à son bord. Par ici prépare mais négocie toujours avec l'Italie de Giorgia Meloni pour que Rome revienne sur son refus d'attribuer un port sûr au bateau humanitaire. Nous en parlons avec l'eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, votre réaction à ces informations Europe 1, la perspective du débarquement de l'Ocean Viking dans un port français, possiblement Toulon, dans quelques jours?
Écoutez, c'est le signe que le gouvernement fait de grandes gesticulations pour dire qu'il a l'intention de protéger les frontières de notre pays et les frontières de l'Europe, mais en fait, n'en fait rien. Parce que, de fait, à la première occasion venue, nous voyons évidemment que le gouvernement, après avoir négocié, après avoir surtout dit tout le mal possible de l'Italie, qui pourtant a pris sa part, le gouvernement est en train aujourd'hui de suivre le même chemin, celui qui jette sur les routes de l'exil des milliers de gens chaque année qui risquent leur vie en Méditerranée. Parce que, en réalité, ce que nous voyons ici, c'est que l'inhumanité, elle se trouve dans la passivité de nos gouvernements européens qui, en cédant sans cesse, établissent cette situation catastrophique que des gens savent parfaitement que s'ils arrivent à mettre le pied sur le sol européen, ils y resteront pour longtemps, ils y resteront pour toujours, et par conséquent, prennent ce risque-là immense, insensé, de tenter d'y rentrer par tous les moyens, y compris en risquant leur vie. Et c'est cette spirale d'impuissance qui crée tant de drames en Méditerranée. Moi, je dis, c'est une chose très simple, nous essayons de défendre ce principe ici au Parlement européen où je suis en ce moment. Nous disons cette chose très simple, il faut qu'il soit parfaitement clair que personne ne pourra s'établir en Europe s'il y rentre illégalement, que personne ne doit pouvoir être admis à entrer illégalement en Europe. Et le jour où ce principe-là sera parfaitement établi, il n'y aura plus de drame en mer Méditerranée.
François-Xavier Bellamy, la Commission européenne est-elle dans son rôle ce soir en appelant au débarquement immédiat de tous les migrants? On rappelle qu'il y a l'Ocean Viking hein, qui est entre l'Italie et la France en mer Méditerranée en ce moment. On ne sait pas exactement où il est, mais il y a aussi trois autres navires qui ont été autorisés à accoster en Italie avec au total plusieurs centaines de personnes, des migrants pour beaucoup venus de la Corne de l'Afrique. La Commission européenne est-elle dans son rôle à appeler, à faire débarquer tous ces migrants sur le sol européen?
En lançant cet appel, la Commission européenne, encore une fois, elle renforce encore cette impuissance des pays européens à maîtriser leurs frontières, cette incapacité dans laquelle nous sommes de lutter contre l'immigration illégale. Et ce faisant, nos institutions se font, la Commission européenne se rend complice des réseaux de passeurs. Ces réseaux de passeurs, ils ont construit un business monstrueux qui aujourd'hui prospère à coût de milliards d'euros. Et ce business qui fait de ces mafias les réseaux les plus criminels du monde aujourd'hui, ce business, il repose encore une fois sur une seule chose, sur le fait qu'encore une fois, nous nous montrions si faibles. Moi, je dis, et encore une fois, c'est absolument fondamental, nous avons un devoir d'humanité, bien sûr. Il est tout à fait scandaleux que chaque année, des milliers de personnes meurent en Méditerranée. Mais pourquoi se risque-t-elle sur cette route? Elle se risque sur cette route précisément parce que la Commission européenne, parce que les gouvernements européens ne sont pas capables de répondre aux défis migratoires autrement que par cette espèce d'impuissance terrible. Et encore une fois, je le redis, cette situation est dramatique parce que c'est une sorte de continuité à laquelle nous sommes associés malgré nous. Cette continuité, c'est celle qui va des passeurs aux ONG qui discutent avec les passeurs. Des enquêtes ont montré que les ONG qui viennent récupérer les migrants en mer, qui les retrouvent en mer Méditerranée, parfois tout près des côtes africaines, tout près des côtes de la Libye par exemple, eh bien, ces organisations non gouvernementales qui disent agir par humanité, en réalité discutent avec ces réseaux criminels et elles effectuent ensuite la dernière étape de la traversée que notre faiblesse coupable rend possible aujourd'hui. On le voit très bien, il faut mettre fin à cette folie et je dirais une dernière chose, c'est que nous le devons aux citoyens de nos pays aussi. Parce que
alors, les citoyens de la France sont justement à l'écoute d'Europe Soir et vous entendent, hein, François-Xavier Bellamy, vous leur rappelez des informations qu'ils connaissent déjà. C'est le cas de Marie qui nous appelle de la Haute-Vienne. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir à tous.
Alors,
je suis
dites-nous.
Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Bellamy. Et je crois que l'essentiel n'a pas été dit dès le départ au sujet de ces bateaux, là précisément, c'est que ces bateaux ont été chercher les migrants. Ils ont pas, ces personnes n'ont pas été récupérées au milieu de la mer, en danger de mort. Non, ils ont été les chercher, livrés par des passeurs. Il y a un trafic énorme, c'est un business. Et ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que ces pauvres gens-là qui sont embarqués sur ces bateaux, qui ne savent même pas vers où ils vont aller et dans quelles conditions ils vont être accueillis, la plupart de leurs familles se sont mis des dettes énormes sur le dos pour payer justement ce trafic, pour payer les passeurs, pour payer les bateaux, pour payer, enfin, tout ce qui concerne ce trafic. Mmh. Les familles restent endettées en Afrique. Les pauvres gens à qui on fait croire que l'Europe va être l'Eldorado, que tout va être rose et goût de miel, vraiment, c'est scandaleux. Je suis vraiment, vraiment scandalisée par tous ces mensonges.
Alors,
ces personnes-là doivent
merci
rester
de votre
dans leur pays.
Contribution. Restez avec nous, on va marquer une petite pause. Mmh. Vous êtes en ligne avec votre eurodéputé François-Xavier Bellamy. Peut-être avez-vous une requête à lui soumettre. Il vous écoute, on marque une petite pause. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Nous sommes avec l'eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy et avec Marie qui nous appelle au 39-21. Marie qui pense qu'il est important de rappeler que les migrants secourus en mer Méditerranée par les bateaux humanitaires ne sont pas forcément égarés. Ce sont, selon elle, des organismes qui viennent les chercher dans leur pays en leur promettant de belles choses. Marie, si vous aviez quelque chose à demander à François-Xavier Bellamy, allez-y. Je vous demande juste de faire très court parce qu'il y a Bernadette qui nous attend également au 39-21. Allez-y, Marie.
Oui, bien, je sais qu'il n'a peut-être pas le plein pouvoir, mais au moins faire entendre sa voix pour faire comprendre que ces pauvres gens, on les fait venir en leur faisant croire des choses qui n'existent pas et qu'ils seraient beaucoup mieux dans leur pays en les aidant dans leur pays.
Alors c'est vrai que merci beaucoup Marie de nous avoir appelé ce soir. C'est vrai François-Xavier Bellamy qui a une forme d'impuissance des institutions européennes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Relancer une mission européenne type Mare Nostrum pour faire ce que font les ONG en mer Méditerranée, éviter des drames humains, mais en ne les accueillant pas forcément du côté européen de la Méditerranée.
Moi, je voudrais remercier Marie et lui promettre que je ferai entendre ma voix, ou plutôt que je ferai entendre sa voix et celle de tellement de Français qui s'inquiètent aujourd'hui de cette situation, de tellement de citoyens des pays européens. Songez quand même que le gouvernement qui a dit tant de mal de l'Italie ne voit pas le gouvernement français, ne voit pas que l'Italie aujourd'hui voit affluer ces bateaux de migrants. Le nombre d'arrivées a doublé depuis l'année dernière et depuis Le 1er janvier dernier, c'est déjà plus de 90 000 personnes qui sont arrivées d'Afrique. Il faut aussi qu'on prenne en compte le fait que nos sociétés en Europe ont absolument besoin de retrouver leur stabilité. Ces personnes qui veulent venir en Europe, je crois que la première chose à faire pour leur éviter une traversée qui peut leur coûter la vie, c'est d'abord de garantir que personne ne pourra s'établir en Europe s'il y rentre illégalement. Et pour ça, il faut engager un vrai bras de fer avec les pays. Il faut qu'on retravaille les conditions de notre aide au développement pour que ces pays ne continuent pas de se décharger de leurs responsabilités en laissant prospérer ces réseaux de passeurs. Il faut s'attaquer à ces réseaux de passeurs. Il faut faire condamner les ONG quand il est établi qu'elles ont des échanges avec ces réseaux de passeurs qui sont, je le rappelle, des mafias criminelles. Et aujourd'hui, ces contacts, ils sont documentés. Il faut faire en sorte que quand une situation comme celle-ci survient, moi je crois qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir faire en sorte que les médecins puissent se rendre à bord des bateaux qui sont aujourd'hui près des côtes européennes pour faire en sorte qu'on traite les situations d'urgence, évidemment, c'est notre devoir. Mais il n'y a aucune raison d'accepter que ces personnes mettent le pied sur le sol européen. Elles viennent des eaux internationales, en réalité elles viennent des eaux territoriales des pays du nord de l'Afrique et il faut qu'elles puissent retourner dans les ports sûrs qui soient susceptibles de les accueillir sur le continent africain.
Alors, comprenez-vous le tour de force de l'Italie, cette libre interprétation de la solidarité européenne? Bernadette nous appelle, elle nous appelle d'Île-de-France, c'est une ancienne comédienne. Bonsoir Bernadette.
Oui, bonsoir.
Alors, vous trouvez scandaleux qu'on la France ne prenne pas sa part, n'accueille pas les immigrés. Ce n'est pas à l'Italie de les accueillir seuls. C'est ça que vous nous dites ce soir, Bernadette.
C'est ça. Et en même temps, ce soir, j'ai entendu aux infos chez vous que Toulon allait sans doute accepter le bateau. Et ça me fait un très grand plaisir. Parce que l'Italie, c'est-à-dire, elle en a accueilli pas mal quand même parce que les côtes sont plus proches. Et donc, je pense que c'est vrai que, de toute façon, le gouvernement, là, n'est pas très propice pour ça. Mais, et c'est vrai que c'est toujours eux, et je sais qu'ils ont un peu d'argent, je sais plus, mais il faut quand même s'en occuper, il faut leur trouver un boulot, il faut les dispatcher. Enfin, il faut s'organiser entre tous les pays européens, mais ça me paraît logique qu'on accueille un bateau avec des gens en perdition dessus, oui.
Avec des femmes, des enfants notamment, François-Xavier Bellamy.
Il n'y a pas que les enfants, il y a tout le monde, de toute façon, s'ils viennent, s'ils s'embarquent sur des bateaux pourris ou pas pourris, j'en sais rien. Mais pour venir, c'est qu'ils sont pas heureux chez eux, c'est qu'ils mangent pas, c'est que nous, on est beaucoup plus riches qu'eux. Je crois qu'on doit partager. Et quand on dit que l'homme est un loup pour l'homme, c'est faux, parce que les loups, ils se mangent pas entre eux. Ils se battent pas, ils se tuent pas. Et nous, oui. Voilà. Et ça, je trouve ça insensé. Voilà.
Alors, François-Xavier Bellamy, on l'entend de la bouche de Bernadette, il y a aussi une vraie bienveillance côté français.
Mais il faut une solidarité européenne, c'est sûr. Moi, je suis d'accord que pendant trop longtemps, on a tourné le dos à l'Italie, on a tourné le dos à la Grèce. J'ai été en Grèce, j'ai été visiter les camps de migrants sur l'île de Lesbos. Et c'est évident qu'aujourd'hui, on a laissé ces pays dits de première entrée, qui sont prêts, comme vous le disiez, Bernadette, des côtes africaines, on les a laissés porter tout seuls le défi migratoire qui pourtant nous concerne tous. Ces gens qui, cherchent à débarquer en Italie, ceux qui cherchent à aller en Grèce, en réalité, ils veulent aller en Europe et pas spécifiquement dans ces pays. Donc il faut une solidarité. Mais cette solidarité, il y a deux manières de la définir. Soit on considère qu'elle consiste à se répartir le résultat de notre incapacité à maîtriser nos frontières. Ça, c'est ce que propose Emmanuel Macron depuis le début de son premier mandat, répartir les migrants en Europe. Ça veut dire on va faire des quotas et chaque pays devra accepter une part de ces migrants qui sont le résultat de notre incapacité, je le redis, à maîtriser nos frontières communes. Et ça, c'est, je crois, exactement la politique qui est vouée à l'échec. C'est celle qu'Emmanuel Macron veut appliquer aussi en France en répartissant les migrants dans les campagnes. Ça n'a aucun sens. La vraie solidarité, elle consiste à faire en sorte de mettre ensemble en œuvre une politique qui permette de maîtriser les frontières européennes dans leur intégralité. Et maîtriser les frontières, c'est la condition pour accueillir vraiment ceux qui sont éligibles à l'asile et qui ont besoin de notre solidarité. Moi, je trouve, par exemple, révoltant que les interprètes afghans qui ont travaillé avec les forces armées françaises pendant des années, eh bien, ils n'aient pas été accueillis en France, que la France leur ait refusé des visas. Et ceux-là, pour le coup, ils ont droit à l'asile. Il est légitime de les accueillir. Mais les personnes qui sont aujourd'hui à bord de l'Ocean Viking, dont parle Bernadette, ces personnes-là, en réalité, ce sont des personnes qui, en Afrique, ont déjà un peu de moyens, ont déjà un peu de formation, qui ont de quoi se cotiser, comme le rappelait Marie, pour pouvoir payer les passeurs. Et ces personnes-là, en fait, en les accueillant, eh bien, nous privons les pays africains de leur possibilité de se développer. Donc c'est une fausse solidarité, c'est une fausse générosité qui déséquilibre durablement la relation entre le Sud et le Nord et qui, en plus, jette sur les routes de l'exil des personnes qui, en réalité, auraient sans doute eu les moyens de contribuer au développement de leur pays là où ils sont. Et ça, c'est pour le coup, je crois, absolument la situation que nous devons éviter. La vraie solidarité européenne, elle consiste à mettre en œuvre une politique efficace pour maîtriser nos frontières. Et puis enfin, la vraie solidarité, on la doit aussi aux citoyens de nos pays. Toulon n'est pas volontaire pour accueillir ce bateau, comme le disait Bernadette. En revanche, j'entendais le maire de Marseille, Benoît Payan, dire eh bien, qu'il était dans un grand geste de générosité, qu'il était prêt à accueillir l'Ocean Viking. Moi, je réponds à Benoît Payan. Dans sa ville, il y a 25% de taux de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est la ville la plus pauvre de toutes les grandes villes de France. Dans certains quartiers de Marseille, il y a plus de 55% de taux de pauvreté. Alors qu'on commence d'abord par s'occuper de ceux qui, dans notre propre pays, ont besoin de notre solidarité. Si on ne fait pas ça d'abord, alors on va continuer de voir aggraver encore toutes les fractures qui traversent notre pays et qui traversent les pays européens.
Merci,
on a besoin de revenir
beaucoup,
à la raison.
François-Xavier Bellamy, eurodéputé Les Républicains, d'avoir répondu aux questions des auditeurs d'Europe 1 et de nous
Merci
avoir fait
vous.
Part de votre analyse de cette situation. Donc l'Ocean Viking qui pourrait débarquer en France d'ici la fin de semaine à Toulon, nous dit-on. C'est une information Europe 1. Le prochain point sur l'information, c'est dans quelques instants avec Hélène Zélani. Restez avec nous.
Europe Soir, 19h, 20h, Raphaël Delvolvé.